RLP.
C'est Maurice Méliès dans l'émission « Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi ». Chers amis, bonjour. Bon, je ne vous dirai pas quel temps il fait, hein, parce que vous n'avez qu'à payer pour ça. Bon, c'est que ce n'est pas gratuit la météo. Hein. On paye des gens pour ça. Bon, et en échange, alors, vous payez, ça n'existe plus la redevance télévision et radio. Je crois que ça n'existe plus. Ah si, c'est parce que moi je ne la paye plus, parce que comme j'ai 80 balais, on se dit, mais Claire, il ne regarde plus la télé. Et en plus, c'est vrai. J'écoute une radio que je connais bien, qui s'appelle Radio Libre en Périgord. Vous verrez, ah, c'est génial, c'est génial. Ben d'ailleurs, vous le savez, puisque vous êtes en train de m'écouter, bande de rigolos. Bon allez, soyons sérieux quand même. Hein. La vie n'est pas faite que de rigolades. Hein. Il y a des malheurs dans la vie. Hein. Par exemple, quand vous vouliez manger du cassoulet et qu'on vous offre des frites, ça c'est un malheur. Ben oui, hein, c'est malheureux quand même. Alors, pour vous faire plaisir, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment Victor Hugo, ouais, et particulièrement une copine à moi. Mais par contre, je ne sais pas si elle m'écoute. Hein, je ne vous parle pas d'Edwige. Hein. Edwige, je ne sais pas si je veux la voir aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas si elle va m'écouter. Elle va peut-être me le signaler dans mon émission, je ne sais pas. Mais bon, après tout, elle fait ce qu'elle veut. Hein. Surtout qu'elle n'est pas à côté, hein. C'est pas la porte à côté. Hein. Bora, bora, ouais. Hey, vous vous rendez compte? Oh, j'aurais bien aimé... Et si on amenait RLP à Bora Bora, ça serait bien, dites donc. Hein? Mais si ça se trouve, ils ont des radios là-bas, hein, parce que maintenant, c'est un peu la mode, hein, surtout les radios libres. Hein. On est tellement libres en tant que radio qu'on ne peut pas dire ce qu'on veut. Allez, bonne celle-là. Ben oui, il faut rester correct. On ne sait pas s'il y a des enfants ou des petits vieux que ça pourrait choquer. Hein. Bon. Allez, le repas libre de Victor Hugo, vous vous rendez compte. Je ne pourrais pas tout vous lire parce que le repas, il dure très longtemps. Hein. Je crois qu'il fait plusieurs pages. Hein, donc, par contre, on pourra peut-être savoir exactement quel est le menu de ce repas libre. Hein. Il y avait à Rome un antique usage. La veille de l'exécution des condamnés à mort, on leur donnait à la porte de la prison un repas public appelé le repas libre. Voilà, vous voyez hein. C'est pas moi qui l'ai inventé. Hein, bon. Lorsqu'à l'antique Olympe, immolant l'évangile, le prêteur appuyant d'un tribunal fragile ses temples aux dieux. Attendez, j'ai mon casque qui se fait la malle. Hein. Il était en train de glisser le long de mes oreilles et il allait tomber sur le micro. Et là, vous auriez entendu boum. Alors, Livide avait prescrit des chrétiens pleins de joie. Attendez, j'ai un moustique qui me touche le nez, c'est incroyable à cette époque-ci, au mois de février. Hein. On verra tout, mais c'est ça, c'est le réchauffement climatique. Pensez que les moustiques ne partent plus en Afrique. C'est comme les hérons cendrés. Ils restent en France ou en Europe. Hein. Alors, victimes qu'attendaient acharnées sur leur proie les tigres et les dieux. Rome offrait un festin à leur élite sainte. Comme si, sur les bords de calices d'absinthe, versant un peu de miel, sa pitié des martyrs ignorait l'énergie et voulait consoler par une folle orgie ceux qu'appelait le ciel. Donc ceux qu'appelait le ciel, c'était ceux qui allaient être condamnés à mort. Ah oui, c'est bonne blague. Enfin, ils vont partir le ventre plein. Ça, c'est pas Victor Hugo qui le dit, c'est moi. Et je crois que c'est une bonne chose, ça. C'est un peu, vous savez, là, chez nous, ici, à l'époque, quand il y avait des condamnements, on leur donnait un petit verre de vin puis une cigarette. Mais c'est peu par rapport à ce que faisaient les Romains. Là, au moins, c'est un repas convivial. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans ce repas, mais apparemment, ils partaient le ventre plein. Hein. Alors après, ça dépendait comment ils se faisaient exécuter. Parce que s'ils lui filaient un coup d'épée dans le ventre, tout ressortait. Vous vous rendez compte? Et qu'est-ce qu'il y avait derrière? Les chiens. Les chiens qui venaient manger, qui venaient prendre la pitance. Ah, c'est dégueulasse. Ah. Bon, en fait, c'est moi qui l'ai inventé. Bon. Alors, la pourpre recevait ses convives austères. La falerne écumait dans de larges cratères, seins de myrtes fleuries. Le miel d'Ibla dorait les vins de Malvoisie. Oh, ça a l'air d'être bon, ça. Hein. Attendez, je tourne la page, parce que c'est un vieux livre, alors. Les pages sont devenues très rigides, ouais. Et montrent à sa menace un sourire hardi. Avant l'heure où périt la fleur de l'espérance, quand l'âme lasse de souffrance, passe au frais matin à l'aride midi. Je disais, ô salut, vierge aimable et sévère, le monde, ô liberté, suit tes nobles élans, comme une jeune épouse, il t'aime, il te révère, comme une aïeule en cheveux blancs. Salut, tu sais, de là, m'écartant les entraves, descendre au cachot des esclaves, plutôt qu'au palais des tyrans, au concert du cédron, mêlant ceux de Pernès, ta voix douce a toujours quelques illustres promesses, qu'entendent les héros mourants. Je disais, souriant à mon ivresse austère, je vis venir à moi les sages de la terre. Voici la liberté, plus de sang, plus de pleurs. Les peuples réveillés s'inclinent devant elle. Viens, ah, mon jeune amant, voici venir l'immortel. Ah, et j'accourus, portant les palmes et des fleurs. Alors, c'était pas des palmes pour nager. Hein. Bon, vous savez, c'est des grandes palmes, un peu qui vient des palmiers. Ah oui, palmes, palmiers, hein, voilà. Hein. Alors, je ne vais pas vous en lire plus parce que, bon, je ne vous cache pas que ça... Ouais, ça. Il y a encore 5-6 pages. Hein. On ne va pas passer toute notre émission à ça. Alors après, bon, il y a la guerre d'Espagne. Il y a... Qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, ben la guerre d'Espagne, c'est encore pire. Oh là là. L'Arc de Triomphe. Bon. Alors, en fait, ce bouquin, il est vieux parce qu'il s'appelle « Ode et balades des Orientales ». Et je ne peux pas vous dire quand est-ce qu'il a été édité parce qu'ils n'ont pas mis la date. Bon, mais comme c'est du Victor Hugo, on se doute bien que c'est pas d'aujourd'hui, hein. Bon, hein. Pas besoin de vous faire un dessin, quand même, hein. Hein. Non, ils disent pas, non. Bon, bah écoutez, hein. Allez. On va passer tout de suite un petit morceau de... Alors là, je vous ai fait un spécial La Pointe. Vous connaissez La Pointe? Hein. Bah oui, vous la connaissez, La Pointe.
Pour faire un tube de toilette, en chantant sur cette terre bête, avec des jeux de mollets, il faut pondre des couplets.
Permets que je te réponde, c'est sûr, faut que tu les pondes.
Bon, mais que dois-je pondre? Que ponge? Que ponge?
Pot, pot, et pot, pot, le dernier mot qui t'a servi est éponge.
Serviette, éponge, parfait.
Allez, vas-y, je vais t'aider.
J'apprécie quand de toilette.
Quand de toilette.
Me soutient ce lavabo.
Ce lavabo.
Coupe plus vite, c'est bien lavé.
C'est bien lavé.
Rite et ça, nous le savons.
À nous le savons de toilette.
Sur ce piano, les touches tièdes.
Les touches tièdes.
Ton air est bon, mais mon shampoing.
Mais mon shampoing.
Il sera peut-être pas sale demain.
Sale de bain.
Il m'aura en tout caminé.
Ou caminé de toilette. Au chaud, au froid, au mitigé.
Cette salade, on verra dans.
On verra dans.
Un instant si c'est le bidet.
C'est le bidet.
Est-ce à répéter ou à terre?
Théo ou à terre.
J'aimerais mieux que d'autres lavandes.
Au de lavande, au de toilette. Au chaud, au froid, au mitigé.
Ma face de carême a rassé.
Crème a rassé.
Pour sur aura ce soir l'éthique.
Rasoir électrique.
Ils font rire les gosses métiques.
Les gosses métiques.
Sur ma gueule dans peigne à moustache.
Peigne à moustache. Cosmétique. Crème à raser. Rasoir électrique. Serviette éponge. Chanson de toilette. Très poétique. Top.
Il dit bien, hein, très poétique, bah ouais. Alors là, j'ai un livre de, allez, l'anthologie négro-africaine, hein, un gros bouquin, hein, édité chez Marabout Université. Et on a tous les chantres, les poètes, tous les gars qui ont écrit, et dans le cas, on a là, ici, Léopold Sédar Senghor. Bon, tout le monde le connaît, hein. Vous le connaissez parce qu'il est décédé. Et alors, il a écrit énormément de choses. Et moi, j'ai choisi un texte qui s'appelle « Message ». Enfant à tête courte, que vous ont chanté les Coras. Vous déclinez la rose, m'a-t-on dit, et vos ancêtres les Gaulois. Alors vous voyez, hein, c'est vrai qu'en Afrique, les écoles, à une époque, ils apprenaient l'histoire de France. Et surtout les Gaulois. Allez donc savoir pourquoi plus les Gaulois que les révolutionnaires. Ben non, les révolutionnaires, c'était pas bon là-bas, parce qu'ils auraient peut-être voulu copier et virer les Français. Hein. Bon, je vais pas vous donner à chaque fois ma version. Hein. Bon, c'est à vous de faire votre version vous-même. Hein. Bon. Vous êtes docteur en Sorbonne, bedonnant de diplôme. Vous amassez des feuilles de papier. Si seulement des louis d'or à compter sous la lampe, comme feu ton père aux doigts tenaces. Vos filles, m'a-t-on dit, se peignent le visage comme des courtisanes. Elles se casquent pour l'union libre et éclaircir la race. Ah, les bonnes, cela. Êtes-vous plus heureux? Quel ton prêt à wa-wa, et vous pleurez au soir là-bas, des grands feux et de sang. Faut-il vous dérouler l'ancien drame et l'épopée? Allez, à Bimicel et Fayo. Fayoy, pardon. Alors ça, ça doit être certainement en Afrique. Hein. Récitez le chapelet des sanctuaires qui ont jalonné la grande voie. Refaites la route royale et méditez ce chemin de croix et de gloire. Vos grands prêtres vous répondront « Voix du sang, plus beau que des rognés dans des morts d'Elisa, minces étaient les désirs de leur ventre. Leur bouclier d'honneur ne les quittait jamais, ni leur lance royale. Ils n'amassaient pas de chiffons, pas même de guinées à parer leurs poupées. Les troupeaux recouvraient les terres, telle leur demeure, l'ombre divine des ficus, et craquaient leurs greniers de grains serrés d'enfants. » Voix du sang, pensez à remâcher. Les conquérants salueront votre démarche. Vos enfants seront la couronne blanche de vos têtes. Voilà, c'est beau, hein. J'aurais bien voulu écrire comme lui, moi. Mais bon, c'était pas la même époque, j'aurais pas pu écrire pareil, hein, c'est évident. Et puis je suis un peu plus fou que lui, quand même, hein. Bon, moi j'écris des conneries, au final, hein, par rapport à lui, hein. Ça, c'est évident. Bon, allez, on va... Alors, je reste sur ce livre, parce que, alors là... Voilà, là, c'est un malgache. Je vais essayer de vous dire son nom. Bon, il s'appelle Jacques. Hein. Rabemananjara. Voilà. Jacques Rabemananjara. J'ai réussi à le dire. Hein. Alors, il est né à... Ben justement, il est né en 1913. C'est pas d'aujourd'hui. Hein. Donc, poète malgache, bien sûr, qui a le plus participé à la revue Présence africaine. Bon, ce qui est normal. Hein. Parce qu'il est quand même africain, quelque part. Hein. Et alors, il a écrit un poème qui s'appelle Antsa. Antsa. A-N-T-S-A. Il aux syllabes de flamme, jamais ton nom ne fut plus cher à mon âme. Il ne fut plus doux à mon cœur. Il aux syllabes de flamme, Madagascar. Quelle résonance, les mots. Les mots fondent dans ma bouche. Le miel des claires saisons dans le mystère de ses stives. Sylve, pardon, Madagascar. Je mords la chair vierge et rouge avec l'âpre ferveur du mourant aux dents de lumière. Madagascar. Je mords la chair, oui, je l'ai déjà dit, bon, un viatique d'innocence dans mes entrailles d'affamés, je m'allongerai sur ton sein avec la fougue du plus ardent de tes amants, du plus fidèle, Madagascar. Qu'importe le hurlement des chouettes, le vol rasant et bas des hiboux apeurés par sous le faîtage de la maison incendiée. Oh, les renards qui lèchent leur peau puante du sang des poussins, du sang auréolé des flamants roses. Nous autres, des hallucinés de l'azur, nous scrutons éperdument toute l'infini de bleu et de la rue. Madagascar, la tête tournée à l'aube levante, levante, oui, levante, hein, levée quoi, hein. Je vais pas parler du ventre. Un pied sur le nombril du ponant. Ah, il y a quand même... Ah oui, donc là, il y a quand même le nombril, il est quand même sur le ventre. Hein. Bon, alors je ne sais pas s'il a voulu faire un jeu de mots, on ne peut pas tout ça. Et le tirste, planté dans le cœur nu du sud, je danserai, ô bien-aimé, je danserai la danse éclair des chasseurs de reptiles, Madagascar. Je lancerai mon rire mythique sur la face blême du midi. Je lancerai sur la figure des étoiles la limpidité de mon sang. Je lancerai l'éclat de ta noblesse sur la nuque épaisse de l'univers. Madagascar, un mot, il, rien qu'un mot. Le mot qui coule du silence, la corde serrée à ton cou, le mot qui rompt les bandelettes du cadavre transfiguré. Sur le ventre de ta mère, l'embryon sautillera, dans les entrailles des pierres danseront les trépassés. Et l'homme, et la femme, et les morts, et les vivants, et la bête de la plante, tous se retrouveront attelants. Non, haletant, pardon, excusez-moi. Dans le bosquet de ma magie, là-bas, au centre de la joie. Un mot, il, rien qu'un mot. Voilà, alors moi je ne vous dis pas le mot fin, parce que l'émission n'est pas terminée, hein. Mais lui, il dit rien qu'un mot, ça veut dire qu'il arrête. Voilà, bon. Alors, on va peut-être faire un peu du Méliès quand même, hein. Faut pas exagérer quand même tout. Pas les autres, attends, en plus, des mecs qui viennent d'Afrique, bon, ouais. Bon, j'ai pas ce jeu blague, là, parce que vous savez très bien que je ne suis pas raciste, au contraire, puisque j'ai adopté une Africaine, ouais. Et elle m'a fait un petit fils, un petit métis. Ah, il est super, il est chiant maintenant, parce qu'il est ado. Et puis, à 12 ans, hein, ça commence à être con, hein. Alors, je vais vous lire un poème de mon premier tome de Fleurs de Femme. Hein. Alors, je vous fasse attention parce qu'il y en a qui sont un petit peu érotiques. Hein. Mais bon, je... Alors, oh non, celui-là, je ne peux pas, il est trop érotique. Non, non, je vais encore me faire engueuler par ma patronne. Non, 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 oh non. Oh. Allez, tiens, l'histoire d'un manteau. Alors là... Là, vous verrez, je parle d'une petite vieille, donc il n'y a pas de risque. Ça risque rien. Ce fut écrit le 19 mars 2001, à 22h17. Ouais, j'aime bien écrire la nuit. J'entends pas de bruit. Même les mouettes, maintenant, je les entends plus. Avant nous, Arasac, les mouettes. J'ai fait des belles photos de mouettes, par contre. Là-bas dans le Nord, dans la mer du Nord. C'est pour ça, des fois, je les entends dans mon ordinateur. Ça m'arrive. Mais dans la journée, quand il a allumé l'ordinateur, sinon non. Allez, histoire d'un manteau. La vieille dame regardait sur elle, son manteau d'histoire par temps de pluie. Chaque bouton en restant était encore une victoire. La trame usée sentait cette bataille de trop de sang et de poussière. Le chien reniflait l'histoire du manteau en cherchant une date à lui donner. La dernière histoire s'accrochait dans sa poche, trouée pour ne pas tomber dans l'oubli. On ne peut se méfier d'une histoire ramassée quand elle garde encore un accent de vérité. Chacun irait chercher l'histoire là où l'habit ne fait pas toujours le moine. La vieille dame et son manteau repassaient en revue la trame de leur histoire. Le manteau promettait de suivre la vieille dame jusqu'au bout de son chemin. C'est pas beau, ça. Il n'y a rien d'érotique là-dedans. Hein. La preuve, c'est qu'elle n'a même pas retiré son manteau. Elle l'a gardé sur elle. Vous vous rendez compte, hein. Bon. Journal intime, non, c'est trop intime. Ah, tiens, si, celui-là, je peux vous lire. Bon, encore qu'il va y avoir des controverses. Mais vous ne téléphonez pas, hein, si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Hein. Ça s'appelle Pierre et Teresa. Bon, ça y est, vous avez compris. Hein. Alors, ça fut écrit en 2001, le 19 juin, et ça a été révisé le 16 septembre 2002. Voilà. Des fois, j'aime bien retravailler un poème... 6 mois après, 1 an après, 20 ans après, non, c'est rare, parce que si c'est 20 ans après, je l'ai complètement oublié, ce poème, donc je ne pourrais pas le révisiter. Hein. Le ciel avait volé la couleur de ton regard par le passage de l'aile noire d'une hirondelle qui planait entre le soleil et la terre. Elle n'offrait que l'ombre posée sur ton visage. Au sol, cet amour attendait quelque part la fin de mon voyage pour connaître la vérité. Celle qui conduit les amants vers l'enfer qu'ils n'ont pas vraiment mérité. Il n'y a rien d'érotique là-dedans. Hein. Les amants, aimants. Hein. Vous savez, les aimants, là, pour essayer de trouver du fer. Voilà, par exemple. Hein. Je pars doucement vers une aventure imaginaire, là où le voyage ne rencontre guère. Guerre avec un S, vous avez compris. Hein. Ici, où les mères sont bonnes comme Teresa et Pierre tendre comme un abbé. Voilà. Alors, on a dit plein de conneries sur l'abbé Pierre. Moi, je l'ai vu, moi, j'avais 9 ans. Hein. J'avais 9 ans. Et puis après, j'ai été quand même pendant 12 ans bénévole à Emmaüs Périgord. Hein. J'ai même été le président des Maïs Périgord. Hein. Donc je ne peux pas croire ça. Et même s'il l'a fait, il a fait tellement mieux que ça. Hein. Alors après, vous pouvez m'engueuler, me dire, mais t'es un peu con quand même, mais tu vas quand même pas lui donner raison. Ben, chacun sa version, chacun sa façon de voir. Hein. Allez, je continue. Si le terrain s'y prête, je ferai mine de l'éviter. Je sais que cet amour me guette quelque part sur cet océan chahuté par un courant contraire. Depuis, j'ai honte de ne pas être tibétain. Je suis fier de ne pas être un chinois. J'ai peur d'être un états-unien du Nord. Je serai afghan pour dévoiler 1000 corps de femmes. Je serai kabyle pour comprendre l'Algérie. Je me serai fait athée pour comprendre les kabyles. J'ordonnerai accuser lèvez-vous pour le massacre de Sabra et Shatila. J'avalerai la pilule même le dimanche soir pour comprendre les femmes. Et je me porterai volontiers comme condamné à mort états-unien pour faire renaître les droits de l'homme. Et puis, je pousserai ce cri de vérité pour celle que j'aime malgré sa faible sensibilité. Je comprendrai que chaque particule est absorbée par des particuliers. Que hausse le CO2 patinera ce patrimoine, déjà voir ce monde en détresse, où l'effet de serre offre sa légitime sensibilité à ceux qui préconisent le nucléaire. Et puis je t'aime, malgré ton album sans cesse décomposé par un cliché encore flou de vérité. Voilà. C'est pas beau, ça, hein? Enfin, moi, je trouve que c'est beau, mais c'est normal, comme c'est moi qui l'ai écrit. Hein. Non, faut pas exagérer, quand même. Hein. Bon, moi, j'aimerais bien, quand même, que mes lectrices, mes lecteurs me téléphonent ou envoient un petit courrier en disant « Qu'est-ce qui est beau, ce que lui mêliez-vous de ce qui vous regarde ?» Surtout particulièrement les siens. Oh, ça me ferait plaisir. Ben, vous savez ce que je vais faire? Je vais tricher. Je vais envoyer des courriers que je vais écrire moi, mais en changeant d'écriture, à la radio, comme si c'était quelques-uns de mes auditeurs ou auditrices. Hein, ça me fera plaisir. Oh, je serais content, je recevrais du courrier qui me flatterait. Ben, ça sera vachement facile pour moi, hein, puisque c'est moi qui les écrirai. Allez, tiens, la pointe. Monsieur l'agent.
Monsieur l'agent, monsieur l'agent, est-ce que je vais bientôt sortir de ce carrefour? Il y a longtemps, 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 monsieur l'agent, que je suis là avec ma tire à ce carrefour. Chez nous, ma femme qui m'attend avec sa mère m'a recommandé d'être là à l'heure, puisqu'il y a sa mère et moi qui rapporte le beurre pour mettre dans les épinards. Elles vont me reprocher mon retard. Ah mère, pourquoi quand le feu est vert, c'est comme quand il est rouge, personne ne bouge, je trouve ça louche. Oh là là, quel temps on perd. Je m'énerve. Mais qu'est-ce donc que cet agent? L'agent qui est planté devant mon véhicule, la jambe en l'air, allons ayez monsieur l'agent, la gentillesse de garer votre matricule, l'agent dit trop, mais la police est sur les dents, et l'agent siffle, n'est pas content que je le bouscule, l'agent gémit, j'ai beau lui dire, ma femme cardiaque est au lit avec une attaque, ça lui fait une belle jambe au lit. Il sort son petit carnet pour me ficher une contredanse. Et je suis en transe, mon beurre sera rance quand il aura terminé. Je m'énerve. Au violon, mes sanglots longs peine. J'ai reçu des coups près du colon. J'ai mal vers l'aine.
Et voilà. Bon, ben c'est bien. Hein. Alors là, je vais faire un petit retour sur Haïti. Vous savez, j'avais écrit un bouquin sur lors de mon voyage. Oh, c'était en 2002. Voilà. Et on était passé donc à partir de Roissy, d'abord directement à Santo Domingo, qui est le pays qui est juste à droite de Haïti, formant tous ces deux pays formant une île. Voilà. Et donc, j'ai eu le temps d'écrire un petit peu sur les deux ou trois jours qu'on est resté à Santo Domingo, qui était une ville assez fascinante, avec des plages, des hôtels 5 étoiles. Mais vraiment, ça valait vraiment 5 étoiles. Hein. C'était pas du cinéma. Hein. Alors, ça s'appelle Santo Domingo, et donc je l'ai écrit le 9 février 2002, à 5h45, en heure locale. Hein. Ouais, parce que je me levais tôt, moi, parce que j'allais visiter la ville le matin, il faisait encore nuit, c'était superbe. Et je vous raconterai ce qui m'était arrivé une fois. D'ailleurs, j'en avais fait un poème. La ville venait de se coucher tard ce matin. Les chiens défendaient leurs poubelles jusqu'à l'arrivée d'un nouveau dîner. Les avenues se reposaient d'une overdose de décibels hispanisants. La jungle de fils électriques s'empâtait d'entendre tant de communications en entrevoyant la ville autrement. Ah oui, alors c'était incroyable le nombre de fils électriques qui passaient d'une maison à une autre, mais inimaginable. Je veux dire, des fois, on voit des photos sur Internet, et bien c'était ça, c'était une toile d'araignée pratiquement. La lune offrait son petit croissant du matinal. Les maisons peureuses de la nuit se cachaient derrière des grilles forgées à temps. Alors, tout le monde était barricadé, là-bas. Hein, c'était... je pense qu'il devait y avoir pas mal de voleurs. Le vagabond prenait possession d'une nouvelle tranche de ville amendiée. Les rues désertes sentaient encore l'odeur des figues. Le sexe local se mélangeait au tourisme du troisième âge, comme la robe brune du rhum et du maracuja mûr. Les rats traversaient une mauvaise passe. Dans des passages cloutés imaginaires, la vie semblait suspendue par des fils fragiles. Santo Domingo recrachait son silence à coups de fatigue et d'alcool. L'ivrogne cherchait le chemin d'un paradis pour y finir sa nuit. La rue El Conde regardait ses papiers gras et ses bouteilles encore à vide. Le gardien de nuit d'une échoppe ambulante me dit bonjour en s'endormant seulement. Les fils s'entortillaient autour de certaines mentalités. Les États-Unis avaient déposé leur marque à chaque coin de rue comme pour s'imposer. Le café de 6 heures sentait déjà la salsa à l'approche d'un carnaval séduisant. L'hôtel Aïda déchargeait ses femmes, pleines de dollars, sur le trottoir repu de la nuit. Le crépi hispanique sentait encore la patine du temps des grands concurrents d'Espagne. Ça veut dire que les maisons étaient vieilles, pas entretenues, oui. Mais il y avait une ambiance qui était sympa, je trouvais, très sympa. Et alors, l'anecdote, c'est qu'en me baladant le matin, comme ça, de bonne heure, vers 5 heures, je suis tombé sur une femme, une prostituée, qui s'appelait Elva. Bon, il se fait que je ne vais pas avoir le temps de vous raconter cette histoire, mais je vous raconterai un peu plus tard. Hein, parce qu'il me reste cinq minutes, si. Non. Enfin, 2 minutes, il me reste. Bon, 2 minutes. Alors, je ne peux rien vous dire. Edwige, ah, t'es là? Bon, tu dors pas à cette heure-ci? Tu sais bien qu'avec le décalage, tu devrais dormir. On n'est pas la même heure qu'en France. Hein. Bon. Ah, t'arrives pas à dormir. T'as le sommeil léger. Ah ouais, d'accord. Et qu'est-ce que tu fais quand c'est comme ça? Tu m'écoutes? Oui, mais ça dure une demi-heure. Bon, tu vas pas... Elle dit oui, mais... Non, je suis pas d'accord avec toi. Bon. Si tu m'écoutes, tu prends les podcasts plutôt. Tu ne prends pas le direct. Comme ça, tu peux m'écouter le jour. Hein? Tu vois, tu sais comment faire, puisque si tu arrives à m'avoir là-bas à Bora Bora, c'est que tu peux m'écouter en podcast. Et je tiens à te signaler qu'il y a presque 476 émissions de fêtes déjà. Et je vais fêter ma 500e émission cette année, en 2025, en même temps que mes 80 ans. Tu t'en rends compte? Ben oui, j'ai 80 ans. Ben oui, c'est bien, c'est trop vieux pour toi, t'es plus jeune. Bon, mais c'est pas grave. Bon, allez, je vais être obligé de te laisser, hein. Parce que là, l'émission est terminée. Bon, t'as qu'à choisir un podcast, vas-y. Tu vas voir, c'est super beau. Et puis c'est facile. Hein. Allez, je vous embrasse tous. Et même Edwige.